Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis Delafontaine, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Christelle Maïri. Elle avait 16 ans quand elle a été tuée dans une cave du Creusot. Un crime commis en 1986 qui allait devenir l'un des plus longs cold case de France.
Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attente.
C'est une enquête qui a cumulé les problèmes.
Oui. Un non-lieu rendu trop vite, des scellés détruits, l'inertie de la justice, le silence de tout un quartier, la folie d'un témoin et même des fuites d'eau dans un palais de justice.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on a loupé? Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout?
Le criminel ne se cachait pourtant pas très loin. Obsédé par son crime, il en consignait chaque détail dans de troublants petits carnets. Il en a parlé à des policiers. Il l'a même avoué au cours d'une fête, sans que rien ne bouge. L'enquête impossible.
On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur du silence.
Face à une justice frappée d'inertie, il a fallu le courage d'une mère pour venir à bout du mystère de la Charmille.
Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Je veux trouver qui est l'assassin de ma fille.
Et avec elle, des avocats déterminés.
Notre certitude, c'est qu'en travaillant, on peut résoudre tous les dossiers criminels.
Un policier hors norme.
Je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle.
Et un expert qui savait lire dans les lames de couteau.
Le Creusot, 18 décembre 1986. Les habitants de la petite ville fleuron de la métallurgie française se préparent à célébrer Noël. Mais dans le quartier de la Charmille, une femme n'a pas la tête aux festivités. Marie Pichon vient d'apprendre que son père a eu un grave accident de voiture. Elle veut aller le voir, mais elle attend d'abord que l'une de ses trois filles, Christelle Maïri, rentre du collège.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
À midi et quart à peu près, bon, pas de Christelle, pas arrivé ni rien. Je me suis inquiétée, c'est pas normal. Alors là, j'ai appelé les copains, enfin, ceux que je connaissais. J'ai essayé d'appeler à l'école, il n'y avait personne. Après, j'ai appelé l'hôpital, pour savoir si elle n'était pas malade ou qu'il y avait quelque chose, mais non, j'ai rien vu. Commissariat m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont dit, oui, votre fille, elle est peut-être partie, elle était mangée avec des copains ou manger un sandwich dans un bar. J'ai dit, non, c'est pas possible. Elle devait rentrer. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? On ne sait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe.
Christelle a 16 ans. Les policiers ne s'inquiètent pas plus que ça. Et Marie a une autre urgence. Foncer voir son père à l'hôpital. Soucieuse, elle remarque à peine les gyrophares qui foncent sur son quartier. La police judiciaire est en train d'investir le sous-sol d'un immeuble de la Charmille, à 250 mètres de chez elle. En début d'après-midi, une habitante y a découvert le corps de Christelle.
Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
Christelle était au fond de ce garage à vélo. Elle était sur le dos. Ses vêtements étaient parfaitement en place.
inspecteur divisionnaire Toussaint Podjial, police judiciaire de Dijon.
Les perforations sur le corps sont des traces de coups de couteau. Plusieurs, nombreuses, sur les avant-bras, la poitrine, dans le dos, au niveau des omoplates et des poumons. Il y a des blessures assez importantes et dont une légère autour du cou de la jeune fille qui semble avoir été laissée par un petit lacet qui était encore sur place d'ailleurs et qui a sans doute servi à l'empêcher de crier. Tout était rangé, les vélos qui étaient posés contre le mur ne sont pas tombés.
Ça suppose qu'il y a peu bagarre, et puis que les faits, tout à coup, ont mal tourné et se sont précipités.
Pas de lutte, pas de vol non plus. Le sac de Christelle n'a pas été fouillé. Il est toujours à côté d'elle, comme son parapluie, encore humide, mais bien replié.
Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
Ça veut dire qu'elle avait pris le temps de le fermer pour accepter d'aller discuter avec quelqu'un dans ce fameux sous-sol. Donc, a priori, on pouvait estimer qu'elle suivait quelqu'un de connaissance. Vous voyez une gamine avec sa jolie frimousse. Ça fait mal, quoi. Tu es une gamine de 16 ans, c'est quelque chose qui est difficilement admissible et c'est assez difficile.
Pichon rentre de l'hôpital en fin d'après-midi. Deux policiers l'attendent dans son hall d'immeuble.
Vous avez retrouvé ma fille?
Oui.
Elle est où? Ils ne savaient pas quoi me répondre. J'ai dit carrément, elle est morte. Oui, mais si elle est morte, comment? Dites-moi-le. Je suis partie... J'ai monté les étages, rentré chez moi comme une folle. Je suis allée me taper la tête contre les murs. Il a fallu les policiers pour me retenir et mon mari. Sinon, je me finissais là. Et après, plus rien.
Christelle Maïri sera inhumée 5 jours plus tard dans le cimetière du village de Mèvres, aux côtés de son grand-père qui n'a pas survécu à son accident de voiture. Avant d'être inhumé, le corps de Christelle a bien sûr été autopsié. Mmh. Alors, que constate le légiste?
Alors, l'autopsie révèle 31 lésions sur la partie haute du corps de Christelle. L'abdomen, le thorax, les bras, les épaules. Des lésions qui ont toutes été provoquées par une arme blanche, pointue et tranchante. Et le légiste écrit « Chacun des coups viscéraux est à lui seul susceptible d'avoir provoqué la mort ». On constate aussi une trace de lésion de striction sur la base antérieure du cou.
Il l'a étranglé.
Il l'a étranglé avec un lien, et ce lien va être retrouvé sur place, c'est le fameux lacet.
Alors ça montre tout ça qu'il s'est vraiment acharné, mais est-ce que Christelle a pu se défendre?
Oui, elle porte des traces de lésions caractéristiques au niveau des bras, elle a mis ses bras devant elle et elle a été blessée. C'est important aussi de dire que le légiste ne relève aucune agression sexuelle évidente.
L'arme n'a pas été retrouvée sur la scène de crime, on sait que c'est une arme blanche, mais quel type de couteau?
Alors là, le médecin légiste est très précis, il parle d'un couteau à cran d'arrêt, c'est ça, à ouverture automatique, avec une lame qui fait 12 cm de longueur.
Et est-ce que le légiste propose un scénario?
Oui, pour lui, l'agresseur était seul et il a agi en 3 temps. Premier temps, avec son couteau, il frappe Christelle dans le dos, dans le bas du dos à droite. Il lui passe ensuite le lien, le lacet autour du cou pour la maîtriser. Deuxième temps, il la frappe de face avec son couteau. Troisième temps, elle tombe et il s'acharne sur elle.
Ouais, très violent, quoi.
Très violent, ça a été très rapide. Et Christelle n'avait aucune chance de s'en sortir.
Dès le lendemain, les policiers se mettent à la recherche du couteau, buisson par buisson. Des fouilles dont les journalistes ne perdent pas une miette.
Alain Bollery, journaliste à Creusot Info.
Ce qui est frappant dès le départ, c'est que personne ne comprend comment une jeune fille a pu être ainsi assassinée, plantée de plusieurs coups de couteau dans une cave d'un immeuble de la Charmille. Ça dépasse le bon entendement.
inspecteur divisionnaire Toussaint Podjial, police judiciaire de Dijon.
On est à peu près persuadé que c'est un crime local. C'est pas quelqu'un qui est venu de centaines de kilomètres à la ronde. La personne qui a commis ce crime doit être connue des gens du coin.
Les ragots, les confidences, le bouche à oreille, les policiers comptent bien dessus. Parce qu'en 1986, pas d'ADN, pas de téléphonie, pas de vidéosurveillance. Ils reconstituent l'itinéraire de Christelle, entre le collège et la cave. Un chemin d'un kilomètre. Environ 13 minutes à pied.
Ce jour-là, ayant été blessée, elle n'assistait pas à son cours d'éducation physique et donc elle a quitté le collège à 11h.
10 minutes plus tard, deux collégiennes ont doublé Christelle sur la rue Foch à hauteur de l'Hôtel Dieu. Elle était seule. 300 mètres plus loin, sur un chemin qui remonte vers le quartier de la Charmille, une femme pense avoir vu l'adolescente sous son parapluie. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Un homme l'accompagnait. Le dernier témoin intéressant est une habitante de la Charmille. Le jour du crime, elle a été dérangée par un son étrange au moment où elle rentrait dans l'immeuble.
Cette dame a cru entendre un gémissement. Elle a prêté l'oreille, elle a écouté, ça ne s'est pas reproduit. Donc elle s'est dit sur le coup, j'ai dû rêver.
Probablement Christelle. Il était 11h30. Reste à trouver l'homme avec qui la collégienne a pu faire un bout de chemin. Autant dire, tout le monde. Dans un quartier où tout le monde se connaît.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
Christelle n'avait aucun ennemi, personne. On était toujours bien vus partout. Alors je me suis dit, c'est un rôdeur, c'est un drogué, c'est tout. Je ne pouvais pas accuser qui que ce soit. Christelle, c'est une adolescente comme tout le monde, hein, avec ses jours bien, les jours moins bien, enfin, comme tout adolescent. Elle ne se laissait pas faire non plus. Elle ne se laissait pas faire, mais elle est très gentille quand même. Hein.
Depuis un an, Christelle avait un petit copain, un voisin de son âge, Michel, à qui elle portait un amour sincère et passionné.
Il y avait eu des petits accrochages entre eux, mais des petits accrochages de jeunes. Michel avait tendance à être un petit peu flirté à droite à gauche, mais c'était léger, quoi. Il n'y avait pas de quoi faire un drame, je dirais.
Interne dans son lycée de Dijon, à 100 km du Creusot, Michel a un alibi solide. Il est donc mis hors de cause. Mais un autre ado attire l'attention des policiers, un certain David. Le matin du meurtre, il a été vu en train de faire les 100 pas pendant une heure devant l'école de la Charmille, juste à côté de la cave. Comme s'il attendait quelqu'un.
Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
Oh, David, c'était un garçon qui aimait se faire passer pour un dur dans le quartier, quoi. Il jouait un petit peu les caïds.
Il nous raconte une fable en disant qu'il avait été convoqué par son ancien instituteur pour, soi-disant, rendre des livres ou récupérer des livres qui seraient restés dans l'école. Quand on a vu l'instituteur, il nous dit « pas du tout, moi je n'ai absolument pas demandé au jeune David de venir là ». Donc, on a dû réinterroger David.
Il a reconnu qu'il souhaitait rencontrer Christelle, parce qu'il aimait bien Christelle. Il avait des vues sur Christelle.
David admet aussi que Michel l'avait sèchement recadré, en lui conseillant de ne pas trop tourner autour de Christelle. Mais lui aussi a un alibi, un cours de dessin à l'heure du crime. Les policiers le laissent filer, mais gardent quand même son nom en tête. Rivalité amoureuse, crime d'ado, les policiers tournent un peu en rond. Quand 2 semaines après le meurtre de Christelle, un témoin leur apporte une piste intéressante. Ce témoin, c'est le facteur. De retour de vacances, un souvenir lui revient. Un incident de rien du tout, le jour du meurtre. à l'angle de la rue Foch et du chemin qui monte à la Charmille.
Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
Là, il était croisé sur le bas de ce chemin par un individu qui courait, qui l'a même légèrement bousculé. Il se souvient seulement qu'arrivé au bas de ce fameux petit chemin, il tourne avenue Foch et qu'il disparaît.
Et le facteur se souvient bien du fuyard.
Inspecteur divisionnaire Toussaint Podjial, police judiciaire de Dijon.
C'est un jeune d'une vingtaine d'années, habillé en jean, avec un blouson, des cheveux un petit peu longs sur la nuque qui font penser au chanteur Renaud.
Renaud, on le voyait beaucoup à cette époque-là, la télévision. C'est pour ça que tout de suite, il a cette image de Renaud qui lui vient à l'esprit lorsqu'il croise l'intéressé en train de courir, en train de descendre.
Ce qu'il nous raconte se passe le jour du crime, à l'heure du crime. Et la personne qui y croise, pour nous, à 99 chances sur 100, c'est le meurtrier de Christelle.
Pendant que les policiers lancent une chasse aux sosies dans tous les bistrots du Creusot, un nouvel indice parvient au commissaire Guichot, près de 2 mois après le meurtre.
Il y a un passant qui, au bas du chemin, qui relie justement l'avenue Foch et puis le lieu du crime, qui découvre un couteau qui est sous un buisson. Et il se trouve que c'est un couteau à cran d'arrêt, qui est à peu près un peu plus d'une centaine de mètres, 105 mètres, je crois, de la sortie du sous-sol de l'immeuble où est trouvée Christelle.
Et à quelques mètres près de l'endroit où le facteur a croisé le fameux sosie de Renaud.
Il y a de grandes chances que ce couteau-là soit l'arme du crime. En le regardant de près, on s'aperçoit qu'il a une lame qui a été affûtée, mais de façon tout à fait irrégulière.
Une lame qui semblait aiguisée avec une pierre et qui avait laissé des stigmates bien particuliers, justement.
Interrogé, le légiste va dans le même sens. Une lame compatible avec les blessures. Seule déception, après 2 mois sous la pluie et la neige, on n'y retrouve aucune trace. Alors, les policiers tentent un coup.
Alain Bollery, journaliste à Creusot Info.
Un jour, Guichot ou Podjial me téléphone, me dit « Alain, on a ce couteau, il faudrait qu'on publie une photo de ce couteau. Peut-être que quelqu'un peut le reconnaître. »
L'appel à témoins fait chou blanc. Mais quelques semaines plus tard, la Poste vient encore au secours de la police. 2 cartes postales anonymes tombent dans le courrier de la brigade criminelle, signée l'assassin de Christelle.
Il m'écrit en précisant « Bien le bonjour, monsieur Guichot », il me cite. Et il ajoute qu'il habite Nevers.
Nevers, dans la Nièvre, à 120 km du Creusot. Cette fois, c'est à la chasse aux corbeaux que les policiers se lancent.
On essayait de dresser la liste de toutes ces personnes susceptibles de naviguer entre les deux agglomérations. Alors c'était un gros boulot, parce qu'il a fallu faire des vérifications dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de formation pour adultes, même à l'armée. Je crois qu'on est allé au 7e régiment d'artillerie de Nevers.
À tous ces suspects, la même dictée. Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. Mais après des semaines de ce travail fastidieux, il faut bien se rendre à l'évidence. Le corbeau s'est envolé. 6 mois après le meurtre, et toujours au même point, les policiers décident donc de revenir à leur idée de départ. Persuadés que la clé de l'énigme se cache au pied de l'immeuble, ils rappellent le jeune David, le collégien qui faisait les 100 pas devant l'école de la Charmille. Il a un alibi. Mais a-t-il tout dit ? Cette fois, le gamin a droit à une sacrée garde à vue.
Et tant que je disais pas que c'était moi, il relâchait pas.
La garde à vue du jeune David a été effectivement une garde à vue assez, coriace. On a essayé d'aller assez loin, de le pousser dans ses retranchements. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas brutalisé, sinon en parole.
On a essayé de mettre une balle dans la tête, je ne reconnaissais pas les faits.
Il a fini par nous dire, puisque vous voulez que ce soit moi, c'est moi. Il a dit non, on sait que c'est pas toi, mais on pense que tu sais quelque chose. Mais là, ça s'est arrêté là, quoi.
Fin de la piste David et d'une dizaine d'autres. Des toxicos, des exhibitionnistes et même un policier. Tous entendus, tous relâchés.
On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur du silence des gens du Creusot.
À partir de ce moment-là, vous avez toute une cascade de questions qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on a loupé? Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout?
Il y avait ce sentiment au Creusot, dans ce quartier, mais peut-être qu'il rôde encore. Peut-être qu'il est toujours là. Et donc ça entretenait cet état de psychose.
Au bout de 3 ans, les policiers ont un signalement, un couteau, un corbeau, mais toujours pas de suspect. Résultat, la juge décide en février 90 qu'il n'y a pas lieu de suivre. Dominique, rappelez-nous ce que signifie un non-lieu dans un dossier.
Un non-lieu, c'est la fin des recherches actives du meurtrier de Christelle. Ça veut dire qu'on met le dossier en sommeil. Alors, j'ai ici le document officiel. Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état. Ça veut dire que le dossier va être déposé au greffe et rien ne se passera, sauf à ce qu'un élément nouveau intervienne. Mais les policiers, eux, vont continuer de leur côté à faire vivre ce dossier. Ils vont faire des actes, des vérifications, des PV de renseignement. Ça sera un document officiel qui, à chaque fois, repoussera la prescription. Je vous rappelle qu'à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans.
Oui, mais évidemment, pour Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry, ce non-lieu, c'est une violence de plus.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry.
Pour moi, mon lieu, c'était terminé. Voilà, terminé. Ça voulait dire que je ne saurais jamais qui a fait ça. C'est nous abandonner. C'est dire, on s'en fout de ce que vous faites. Vous êtes trop... Voilà, vous êtes des gens comme moi. Vous n'en avez rien à faire. Pour moi, c'était ça. C'était ça.
Trois ans passent encore. Sans nouvelles de la justice et des enquêteurs, seule avec sa peine, Marie accepte sans hésiter l'invitation de l'émission à succès Témoin numéro 1.
Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Tout ce qu'on va me demander, je vais trouver qui est l'assassin de ma fille. On l'appréhendait, on ne connaissait pas le monde de la télévision. C'est pas très facile de stresser. On se dope un petit peu. C'était calmant pour pouvoir être tranquille.
8 millions de téléspectateurs regardent l'émission ce soir-là. Mais personne n'apporte de témoignage intéressant. Le dernier espoir de Marie s'évanouit.
Tant pis. Je ne saurais jamais rien. Voilà. Pour moi, j'allais abandonner. Voilà. Dans l'oubli.
Oublier Marie et sa fille. Quatre ans plus tard, et donc 10 ans après le crime, en 1997, elle apprend par le journal la création dans la région d'une association de soutien aux familles de victimes. Marie s'y présente timidement. Elle y rencontre Marie-Rose Blétry, une maman qui vient de perdre quelques jours plus tôt sa fille de 20 ans. Elle aussi s'appelait Christelle. Elle aussi a été tuée à coups de couteau. Marie ne le sait pas encore, mais cette rencontre va changer le cours de sa vie.
Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle.
C'est sûr que Marie, elle était seule. Elle était vraiment très seule. Elle parlait d'ailleurs, je crois qu'elle parlait de jamais de Christelle, jamais de l'affaire à quiconque. Et c'est en venant à l'association Christelle qu'elle a commencé à parler.
L'association, ça m'a aidé à, on va dire, survivre, revivre un peu mieux. Et petit à petit, bon, je pense, ça m'a donné du peps, comme on dit.
L'association Christelle rassemble bientôt une dizaine de familles dont les filles ont été tuées en Saône-et-Loire dans les années 80-90. Des cold cases dont les victimes deviendront pour la presse les disparus de la CIS. Décidées à secouer la justice pour retrouver les assassins de leurs filles, ces mères font appel en 2001 à deux avocats combatifs, spécialistes des dossiers non élucidés, Corinne Herman et Didier Seban.
Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon.
On est un peu, à ce moment-là, le dernier recours. L'idée que la justice dysfonctionne, que plus rien ne marche, que si on en reste là, tout le monde se satisfera de la mort de leur fille et de l'absence d'élucidation de ces meurtres.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
Elle croit qu'on peut encore faire quelque chose et elle vient nous consulter pour savoir si la justice peut encore passer.
On sent qu'il y a une expérience et surtout, Corinne dit, tout n'a pas été fait, il faut faire. Et puis, on sent qu'il y a de l'humanité, il y a plein de choses.
Donc, pour moi, j'espérais, j'avais toujours une petite lumière qui me disait, allez, ça va peut-être y arriver, peut-être.
Les avocats plongent dans le dossier et contactent le tribunal de Châlons pour récupérer la liste des scellés. Mais une très mauvaise surprise les attend dans le dossier Maïri. Les vêtements de Christelle, le couteau, tous les scellés ont disparu.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
C'est absolument incompréhensible que ça ait été le cas. C'est certainement dans ma carrière un des moments qui m'a le plus marqué parce que d'appeler Marie pour lui dire qu'il n'y avait plus de scellés, c'est difficile, très difficile à faire.
Une catastrophe pour l'avocate, une désillusion de plus pour la mère.
Ça, j'ai pas aimé. Hein. Plus de scellés, plus rien. Aucun souvenir de ma fille qui restait. Hein. Plus de scellés, plus d'espoir.
Dominique, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé aux scellés ?
Alors, il y a deux versions très différentes au palais de justice de Chalon-sur-Saône. La première, celle d'un magistrat qui aurait demandé la destruction des scellés. Mais pour ça, il faut que ce magistrat rédige un document qui n'a jamais été retrouvé. La deuxième version, c'est celle d'un dégât des eaux qui aurait détruit, en partie en tout cas, le local dans lequel sont entretenus les scellés de justice. Un concierge serait passé après et au lieu de faire le tri entre ce qui pouvait être récupéré ou non, il aurait tout balancé. Il ne reste du dossier Maïri qu'un dossier papier avec des procès-verbaux et les photos des objets en question.
Mais ça, c'est une vraie catastrophe, parce que les avocats de Marie Pichon, du coup, ne peuvent plus solliciter d'expertise, notamment génétique, sur les vêtements et sur le couteau.
Oui. En 86, l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements, c'était pas possible. Là, on est au début des années 2000, 20 ans ont passé. Bien sûr qu'on aurait pu faire de l'ADN, mais c'est impossible.
Les avocats n'ont pas le choix, ils devront faire sans les scellés. Alors, 17 ans après le meurtre de Christelle, ils embauchent un détective privé pour approfondir certaines pistes.
Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon.
L'enquête s'est beaucoup concentrée sur l'immeuble où s'est déroulé le crime, mais on a oublié un endroit, c'était tout simplement l'endroit où vivait Christelle et les gens qui fréquentaient cet endroit.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
Mon choix, c'est d'envoyer le détective rencontrer son petit ami de l'époque. Je sais qu'il aimait vraiment Christelle Maïri et je me disais que ça pouvait être un point de départ pour avoir des informations plus précises sur la victime.
Le détective privé n'a pas de mal à retrouver Michel. L'ancien petit copain de Christelle a maintenant 33 ans. Il vit toujours au Creusot.
Éric Bellaouel, détective.
Je suis tombé sur quelqu'un d'assez fragile, assez dépressif, on va dire. Et il était encore très touché par l'histoire.
Le privé espère en apprendre plus sur Christelle, ses connaissances. Mais ce que Michel finit par lâcher dépasse ses espérances.
À un moment donné, il me dit, bah voilà, écoutez, il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est un ancien copain à moi, et qui, un soir de fête, s'est invité et m'a proposé 2000 francs en compensation et en s'accusant du meurtre de Christelle.
Le meurtrier, là, au milieu des fêtards, prêt à lui donner 2000 francs pour le dédommager du meurtre de Christelle. Incroyable. Michel se souvient très bien du nom de ce type.
Et c'est à ce moment-là qu'il évoque Jean-Pierre Murat.
Jean-Pierre Murat. C'est la première fois que ce nom apparaît dans l'enquête. Cette confession remonterait à 3 ou 4 ans après le meurtre de Christelle. Mais fallait-il croire ses aveux alcoolisés? En tout cas, Michel n'a pas pris le gars au sérieux.
Quand Michel me parle de Jean-Pierre Murat, il me parle de quelqu'un d'assez déséquilibré, qui était toxico à l'époque. Et Michel m'explique qu'il a tendance à douter de ce qu'il disait, quoi. Pour lui, Jean-Pierre Murat n'était pas l'assassin de Christelle. Quand il me raconte cette histoire, il tremblait, il était en sueur. C'est vrai que quand quelque part il me balance l'histoire de Jean-Pierre Murat, il n'est pas forcément bien. Mais en même temps, ça lui a fait du bien de m'en parler, quoi.
Ce secret, Michel l'a porté comme un fardeau pendant plus de 13 ans. Pour le détective, ce témoignage est capital. Il faut rapidement voir ce Murat. Lui aussi vit au Creusot. Il a 36 ans et habite une mansarde chez ses parents.
Éric Bellaouel, détective.
Jean-Pierre Murat me reçoit naturellement. C'était au petit matin, il venait de se lever. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Vous avez trouvé le meurtrier de Christelle ?» Et j'ai dit « Non, pas encore. Moi, j'enquête dessus. » Il est curieux, il veut savoir. Ce que je sais, il est même très nerveux d'ailleurs quand je l'ai en face de moi, quand on prend ce café. Il est vraiment très très nerveux. Il y a plusieurs reprises, il me dit « Est-ce qu'on a des pistes ?» Et c'est vrai que j'ai devant moi quelqu'un qui est vraiment instable, quoi. Et je me dis vraiment là, oui, effectivement, il y a une piste.
Une piste ? Plutôt une bombe dans le dossier.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
On sait que c'est une piste qui est ferme, qu'il faut vérifier, qui n'a jamais été vérifiée. Donc pour moi, il y a à l'époque urgence, c'est pas à moi de vérifier, c'est évidemment à la justice de le faire.
L'avocate fait suivre, mais elle doit ronger son frein. La justice n'a pas le même rythme. Il faut encore attendre 1 an et demi la réouverture du dossier et la nomination d'un nouveau juge d'instruction.
C'est déjà une grande victoire quand on relance un dossier. Quand on ouvre un dossier, c'est déjà un bon signe, c'est un bon indicateur.
Et après cela, il faudra encore attendre 2 ans et demi pour arriver à une garde à vue de Jean-Pierre Murat.
Dominique, pourquoi il s'est passé autant de temps entre les révélations du détective et la garde à vue de Murat en mars 2007? 4 ans de perdu.
Alors, peut-être en raison de l'encombrement des dossiers dans les tribunaux qui ont beaucoup de travail. Hein. Et puis, cette affaire Maillerie, elle remonte à 1986, vous venez de le dire, en étant 2007. Ça fait 20 ans, c'est un vieux dossier. Et pour la justice et puis pour la brigade criminelle à Dijon, c'est pas une priorité, c'est pas un dossier prioritaire. Et ça va pas être facile de le faire repasser au-dessus de la pile.
Alors, que dit Murat au cours de sa garde à vue ?
La garde à vue de Murat, elle dure à peine plus de 3 heures. J'ai ici son audition. Alors, il dit essentiellement 3 choses. Il dit que, 1, il ne connaissait pas Christelle Maillerie. 2, il dément formellement être son meurtrier. 3, il dit que ce jour-là, il se baladait.
Et que dit Murat du témoignage de Michel, à qui il a avoué le meurtre au cours d'une soirée ?
Il dit que c'est faux. Il dément. Et il accuse même Michel d'être le meurtrier de Christelle Maillerie.
On ne peut pas les confronter tous les deux ?
Non, c'est impossible. La police ne peut pas réentendre Michel parce qu'il est mort. Il est mort 6 mois après avoir été entendu par le fameux détective privé. Il est mort d'une crise cardiaque. On a l'impression, Rachid, que le sort, un mauvais sort, s'acharne décidément sur ce dossier.
Et faute d'éléments supplémentaires, eh bien Murat est relâché Et le dossier va encore prendre la poussière pendant 2 ans, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel enquêteur.
Ce nouvel enquêteur, c'est le brigadier chef Raphaël Nedilko. Un policier atypique qui débarque à la PJ de Dijon après des années au 36 quai des Orfèvres. Déterminé, bosseur, il va reprendre seul l'enquête sur le meurtre de Christelle Maïri, 23 ans après les faits.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
J'étais persuadé que j'allais me planter. J'étais persuadé que l'affaire Maïri, c'est pas moi qui allais la résoudre, que personne n'allait la résoudre. Parce que tout était fait pour que ça plante. C'était vieux, tout avait été détruit, donc j'ai repris un dossier qui était au plus bas.
La force d'affronter le dossier, le policier va la chercher dans un endroit surprenant.
J'ai eu besoin d'aller me ressourcer sur la tombe de Christelle Maïri pour essayer de ne pas perdre le fil du but à atteindre. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer pour retrouver cette énergie-là.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
Elle m'appelle pour me demander si pouvait venir me voir. Je ne sais pas comment. Je le vois toujours arriver, passer la fenêtre. Mais bon, il avait l'air sympa, il passait bien pour moi.
Il est bien évident que je ne peux pas lui faire la promesse de retrouver l'assassin de sa fille, mais je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle. Je devais y arriver, jusqu'au bout.
Raphaël Nedilko reprend toute l'enquête à zéro. Derrière les PV et les articles jaunis par le temps, le policier découvre de nouvelles pistes de travail, les explore et les referme une par une. Un travail de bénédictin qui, en 2010, bénéficie d'un coup de pouce du destin. Le retour du corbeau.
Le juge d'instruction me fait parvenir une lettre anonyme avec une écriture très très particulière évoquant le meurtre de la petite Christelle à la Charmille, dans laquelle l'auteur tient des propos complètement décousus. Cette écriture sur la lettre anonyme, immédiatement je la reconnais. C'est celle de Jean-Pierre Murat.
Comme tous les suspects de cette affaire, Murat a en effet été soumis à la dictée des policiers. Raphaël Nedilko veut donc le voir, vite. Mais une fois de plus, l'enquête va devoir attendre. Murat est hospitalisé sous contrainte, en psychiatrie, à la suite d'une tentative d'agression commise quelques jours plus tôt.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Ce jour-là, il entend des voix. Des voix qui lui intiment l'ordre de se rendre dans une station-service parce qu'il perçoit des insultes contre lui, contre sa famille. Il se rend dans cette station-service avec un couteau et il menace une caissière en lui demandant de tout faire pour arrêter ses insultes.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
On a les images et on voit la violence de son regard, la violence de son attitude et ce qu'a subi cette pompiste.
Curieusement, juste après avoir menacé la caissière, Jean-Pierre Murat ne s'en va pas, il reste sur les lieux. La caissière fait appel aux gendarmes qui viennent interpeller Jean-Pierre Murat.
Curieusement, ce n'est pas la première fois que Murat profère des menaces dans cette station-service. Et coïncidence ou pas, la mère et le beau-père de Christelle travaillaient dans une station-service où l'adolescente leur donnait parfois un coup de main.
À ce stade de l'enquête, je ne peux pas en tirer une conclusion, mais je ne peux pas passer à côté de cette analogie, c'est trop troublant.
En attendant que Murat soit stabilisé et puisse être interrogé, le policier Nedilko continue à enquêter. Il interroge ses proches. Et ils lui parlent tous de ses carnets intimes.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
très vite, j'établis qu'il est littéralement obsédé par l'affaire Maïri, depuis le début, en fin de compte. Les gens qui le connaissent évoquent cette propension qu'il a, tous les ans, de noter dans un cahier les détails concernant ce meurtre. Chaque fin d'année, il en parle et il va accuser, en fonction de ses délires, des gens d'être le meurtrier de la petite Christelle.
Ces gens que Murat accuse, ce sont tous des jeunes de la Charmille. Le quartier où il a vécu jusqu'à l'adolescence, avec son frère aîné et ses parents, ouvriers dans le textile et la métallurgie. Et quand sa famille a déménagé dans un autre secteur du Creusot, Jean-Pierre Murat a continué à venir très souvent au pied de l'immeuble où il avait vécu. Le même que celui de Christelle Maïri.
Nécessairement, il ne pouvait que connaître Christelle Maïri parce que les jeunes se rassemblaient en bas de l'immeuble. Ça faisait partie du microcosme de la Charmille.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Ses copains disaient qu'il était parfois atteint de, non pas de délire, mais qu'il avait des troubles, qu'il n'était pas toujours très, très normal.
Ses copains de l'époque décrivent aux policiers un jeune homme renfermé, oisif, accro au cannabis et petit délinquant.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
Ils avaient à plusieurs reprises avec des amis à lui fractionné des portes de cave et volé, notamment dans l'immeuble où Christelle sera retrouvée morte. Ces caves, c'était son domaine, c'était son territoire.
Murat avait même hérité d'un surnom, le rat de cave. Un Jean-Pierre Murat obsédé par le meurtre de Christelle et les caves, tout ça colle bien. Mais le policier a encore autre chose à demander au copain de Murat. Il avait quelle tête à 19 ans ?
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Je traverse la France. Je vais rencontrer absolument tous les copains de l'époque de Jean-Pierre Murat. Je saisis absolument toutes les photos où il apparaît. À l'époque du meurtre, Jean-Pierre Murat, il a un look de rocker des bons quartiers, avec les cheveux mi-longs qui lui tombent sur la nuque, un jean de bonne facture, un blouson jean Levi's doublé col mouton. La description correspond à celle qui est donnée par le facteur de ce qui s'est passé le jour du meurtre.
Une dégaine à la Renault. Le jour du meurtre, Jean-Pierre Murat était censé repeindre des radiateurs dans un foyer, dans le cadre d'un emploi aidé.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Des personnes qui travaillaient dans ce foyer ont été retrouvées et elles ont indiqué qu'elles n'avaient aucun souvenir de Jean-Pierre Murat, qu'elles ne l'avaient jamais vu véritablement travailler. Et donc, on n'a pas la preuve absolue de la présence de Jean-Pierre Murat le jour du meurtre.
Murat n'a donc pas d'alibi. Mais 24 ans après les faits, impossible pour Raphaël Nedilko de le localiser plus précisément le jour du meurtre. Ce qu'il apprend, en revanche, c'est que quelques mois après le crime, son suspect a filé en Suisse. Murat est parti y travailler avec son frère comme métallier, alors même que sa compagne était enceinte.
La question qui me taraude, c'est de savoir s'il fait ça opportunément, s'il s'agit d'une cavale, ou si c'est simplement dans le but de l'occuper. Il reste à distance. Et cela sème vraiment beaucoup de doutes dans mon esprit.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
Pour nous, ce départ en Suisse est clairement une mise au vert, enfin en tout cas une protection pour lui. Il sort des radars totalement, et tout le monde l'ignore, et il apparaît absolument pas au dossier.
2 ans et demi plus tard, Jean-Pierre Murat a quitté la Suisse pour revenir au Creusot. Sa compagne l'a quitté. C'est à ce moment-là que les premiers signes de sa maladie sont apparus. Des délires, des hallucinations. Les symptômes d'une schizophrénie.
Docteur Gérald Lallois, expert psychiatre.
Il n'a plus son identité propre Et donc, il a des perceptions sur la peau, sur des transformations osseuses, qui font qu'il s'imagine qu'il a une partie du corps chez lui comme d'un serpent.
Son état psychotique empire, il est de plus en plus agressif. Il est de plus en plus délirant. Il s'isole du reste de son entourage. Et d'un point de vue professionnel, il ne connaîtra pratiquement plus aucune activité au cours des années qui ont suivi.
Jean-Pierre Murat sombre alors dans l'alcool et la drogue. Sa vie est émaillée de crises délirantes et de violences qui le conduisent régulièrement à l'hôpital psychiatrique. Et c'est au cours de l'une de ces crises qu'il aborde le meurtre de Christelle avec un médecin.
À un moment donné où il évoque cette affaire, il parle à son propre reflet dans la glace, se demandant s'il connaissait l'assassin, disant que l'assassin avait la même voix que lui et qu'il craignait l'assassin.
Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon.
On a ce sentiment d'un homme qui a des images, a des fulgurances et se demande en permanence « suis-je celui qui l'a tué ?»
Plus étonnant, Murat s'est aussi confié à des policiers du Creusot. C'est ce que Raphaël Nedilko découvre en exhumant du dossier un PV insensé. En 1998 et en 2000, par deux fois, Murat s'est spontanément rendu au commissariat pour parler du meurtre de Christelle, alors même qu'il n'était pas soupçonné.
Il expliquait qu'il connaissait Christelle Maïri, mais surtout qu'il la convoitait, qu'il rêvait d'elle la nuit régulièrement, qu'il l'entendait lui parler pendant son sommeil, qu'il la connaissait comme une voisine, mais qu'il était intéressé par elle, qu'il aurait bien voulu sortir avec elle, mais qu'il n'a jamais osé lui adresser la parole.
Persuadé que le type ne tournait pas rond, les policiers l'ont laissé repartir comme il était venu.
On peut se demander si ce sont toujours des coïncidences ou s'il n'y a pas un véritable fil conducteur dans l'existence de Jean-Pierre Murat qui est le meurtre de Christelle Maïri qui l'a commis.
Le brigadier chef Nedilko commence à avoir pas mal de billes. Mais il sait aussi que ses indices sont fragiles et qu'une défense habile les démontra les uns après les autres.
Que Murat ait connu Christelle, par exemple, c'est possible, mais ce n'est pas sûr non plus.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
Il savait qu'elle existait, c'est tout. Mais il ne la connaît pas. Alors ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une différence d'âge. À 16 ans et à 20 ans, on n'a pas les mêmes relations. Il aurait aimé la connaître, mais je ne sais pas, mais est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé à nous de dire « mais j'aurais bien aimé connaître cette fille-là »
Les confidences de Murat au petit copain de Christelle, son obsession pour le meurtre. Là encore, la défense aura une réponse facile. Le signe de sa maladie.
S'il est dans une situation de crise, eh ben à partir de ce moment-là, il peut absolument tout dire. C'est une maladie terrible, mais c'est sa maladie. C'est un garçon qui se soucie beaucoup des autres. Et c'est vrai que cette jeune fille puisse décéder à l'âge de 15 ans, pour lui, ce n'était pas possible et ça ne doit pas exister. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il avait tout le temps ça en tête. Et il fallait qu'on trouve le coupable.
Et son absence au travail ce jour-là? Le policier Nedilko sait bien que l'argument se démonte aussi facilement.
Donc on aura des oui-dire, on nous dira simplement qu'il n'aimait pas se lever le matin et puis qu'il n'était pas très assidu à son travail. Ok, ça ne fait pas un meurtrier entre nous. Hein.
Son séjour en Suisse, il a le droit d'y aller.
Il a son enfant et sa compagne qui sont au Creusot et il va revenir tous les week-ends pour les voir. Il subvient à leurs besoins. On peut le loger extrêmement facilement. Il est parti simplement travailler. Et la preuve, c'est qu'il va revenir en 1989. Or, si je commets un meurtre et que je veuille me faire oublier, je ne vais pas revenir au bout de 2 ans. Et pourtant, il revient.
Quant à sa coupe de cheveux, Tous les jeunes de l'époque avaient la même. Et puis, le signalement du facteur...
Alors le facteur... Bon, le facteur, il décrit un garçon qui court, qui est au moins aussi grand que lui, 1m80, donc qui est grand, et qui a les cheveux clairs, voire blonds. Eh bien, Jean Prémurat, il est brun. Et sa taille, c'est une petite taille, c'est 1m70. Ce témoignage, il ne permet pas de dire « c'est Jean-Pierre Murat ». Pas du tout. Et moi, je dis au contraire. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui.
Si Nedilko veut coincer Murat, il va falloir creuser davantage. Et l'occasion se présente le 19 mai 2011. Il obtient enfin le feu vert des médecins pour l'interroger. Mais en audition libre, pas en garde à vue.
Jean-Pierre Murat est stabilisé. Mais on nous fait bien comprendre au niveau du corps médical qu'il demeure dangereux. Qu'il y a un risque de passage à l'acte soudain, brutal, dont on doit être protégé. Et il est hors de question pour moi de l'entendre en qualité de mise en cause.
La stratégie de Raphaël Nedilko est donc de laisser Jean-Pierre Murat parler librement, sans le brusquer.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Tout de suite d'entrée de jeu, il me dit de toute façon, je n'ai rien à voir avec le meurtre de cette petite fille. Il affirme qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait même pas à quoi elle pouvait ressembler. Et je me souviens qu'au moment de replier mon ordinateur, l'audition était pratiquement terminée, Jean-Pierre Murat me livre deux informations extrêmement importantes. La première, c'est qu'il se situe lui-même à la Charmille le jour du meurtre. Jean-Pierre Murat met le doigt dans le grenage. Il se trahit. Lui-même se fixe physiquement dans le quartier de la Charmille, à proximité immédiate du domicile de Christelle Maïry le jour du meurtre.
Un faux pas inespéré. Et Murat en fait un deuxième.
Il accuse deux personnes d'avoir échangé un couteau à cran d'arrêt après le meurtre. Couteau à cran d'arrêt dont la longueur pourrait correspondre à l'arme du crime. Ce qui est d'autant plus inquiétant parce que Jean-Pierre Murat n'est pas censé savoir quoi que ce soit. Lui-même l'a affirmé. Il ne sait rien sur le meurtre de Christelle Maïry, y compris l'arme qui aurait été utilisée.
Quand le policier quitte Murat, sa conviction s'est encore renforcée. D'autant plus que tous ceux qui connaissent le suspect lui ont aussi parlé d'une vraie passion pour les couteaux.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Jean-Pierre Murat était depuis très jeune obsédé par les couteaux, à tel point qu'il allait même chercher certains couteaux dans les poubelles parce qu'ils représentaient un objet important pour lui. Il faisait la collection de ses couteaux, ses anciennes compagnes ont été entendues et ont toutes dit qu'il avait des couteaux, des crans d'arrêt, qu'il sortait jamais sans un couteau. Et que cette adoration ne l'a jamais quitté.
Docteur Gérald Dallois, expert psychiatre.
C'est très fréquent qu'un certain nombre de schizophrènes en plein délire de persécution portent une arme et notamment des couteaux pour essayer de se protéger puisqu'ils pensent qu'ils vont être attaqués par des martiens, par des gens qui leur veulent du mal, etc.
Trois semaines après l'audition de Murat, les policiers perquisitionnent chez lui. Et la pêche est bonne.
On découvre une quantité assez impressionnante de couteaux qui sont collectionnés à la fois par Jean-Pierre Murat et par son père. On retrouve de ces couteaux absolument partout, dans les tiroirs des commodes, dans les tables de nuit, dans les meubles de cuisine, dans les placards. On trouve des couteaux dans le box réservé à Jean-Pierre Murat, notamment un couteau dépourvu de manche, un couteau de cuisine, qui est très grossièrement affûté à la meule. cette lame de couteau dépourvue de manche, la façon dont elle est affûtée, elle me fait immédiatement penser au couteau découvert peu après le meurtre dont on pense qu'il pourrait être l'arme du crime.
Les couteaux saisis chez Murat sont bien sûr envoyés à un expert pour être comparés à celui qui a été retrouvé tout près de la scène de crime. Mmh. Le problème, c'est que ce couteau-là a été détruit et qu'il ne reste qu'une photo.
Oui, alors c'est une première en France, ça ne s'était jamais fait et à ma connaissance, ça n'a jamais été reproduit. Le juge va demander de comparer les couteaux Murat à ça, à cette photo de mauvaise qualité qui est la photo du couteau retrouvé près de la scène de crime. Et en préambule, l'expert va dire que la disparition du couteau original est un obstacle majeur. Ça ne va pas être facile pour lui de travailler à partir de ce document. Mais ça se tente.
Ok, ça se tente, mais est-ce que ça marche ?
Oui, ça va marcher parce que l'expert met en évidence sur les lames des stigmates d'affûtage. Ce sont des cicatrices qui sont laissées par l'outil d'affûtage, par la pierre, par la meule. Un bon rémouleur ne va aiguiser que le fil du couteau et ne laissera aucune marque sur les côtés de la lame. Là, ce n'est pas le cas.
Et est-ce qu'on retrouve ces traces sur la photo du couteau retrouvé dans les buissons ?
Oui, on les retrouve. L'expert en observe quatre stigmates d'affûtage dont il dit qu'ils sont en totale similitude avec les marques d'affûtage des couteaux saisis chez Jean-Pierre Murat. Écoutez bien sa conclusion. Cela tend à prouver que le couteau découvert en 1987 et ceux saisis chez Murat sont passés entre les mains du ou des mêmes propriétaires. En clair, le couteau retrouvé près de la scène de crime serait celui de
Jean-Pierre Murat.
Ouais.
Et la conséquence, eh bien, c'est que Murat, le 13 décembre 2011, est placé en garde à vue. Nous sommes 25 ans après le crime.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Il est très calme, très détendu, très confiant. Pour lui, il est sur la même ligne de défense. Il n'a rien à voir dans ce meurtre. Et il est convaincu qu'on n'a absolument aucun élément à charge contre lui.
Tellement confiant, Murat, qu'il refuse même la présence d'un avocat. Sauf que cette fois-ci, Raphaël Nedilko passe à l'attaque. Murat dément connaître Christelle. Mais alors pourquoi disait-il le contraire quand il rendait visite aux policiers du Creusot en 2000 ?
Je lui ai montré son audition. Et sa réaction a été de me traiter de menteur. Que jamais il n'avait dit une chose pareille et il a préféré garder le silence.
Et le couteau retrouvé dans le buisson ? Le couteau à cran d'arrêt. Son ancienne compagne et son frère le disent tous les deux. Jean-Pierre Murat avait le même.
Jean-Pierre Murat dira que non, qu'il n'a jamais eu un couteau de ce type-là. Il dira que ce n'est pas affûté, c'est carrément raboté, que lui c'est un spécialiste et qu'on n'affûtera jamais un couteau comme celui-là. Pour autant, l'expertise montrait qu'il était capable d'affûter un couteau d'une manière aussi médiocre que celle-là.
Sur sa dégaine à la Renault, la ressemblance avec le signalement du facteur, sur ses confidences à Michel, toujours la même réponse. Non. Toujours non.
J'ai longtemps pensé pendant la garde à vue qu'avec la charge des éléments que je lui opposais, il allait finir par craquer. Je pense qu'une personne normale, avec un tel faisceau concordant, aurait déposé les armes et aurait fini par avouer. Mais pas Jean-Pierre Murat. Non.
Le policier devra faire sans aveu. Mais il peut toujours compter sur Murat pour commettre un faux pas.
Il me dit, mais vous savez, la scène de crime, je connais. Environ une dizaine d'années après le meurtre, j'ai été pris d'une envie d'aller voir s'il restait des traces de sang. Et là, il urine. Non pas contre un mur, n'importe où dans la cave, non précisément à l'endroit même où il affirme que le corps était, à l'endroit même où il affirme chercher des traces de sang.
Et l'emplacement exact du corps dans la cave, personne ne le connaît, à part les enquêteurs et le meurtrier.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Pourquoi éprouve-t-il le besoin de retourner lui-même sur les lieux du crime pour rechercher quels indices, pour y faire quoi, pour se rendre compte de quoi? Cela vient confirmé qu'il a sans doute un rôle direct dans la mort de Christelle Maïri.
Depuis le début, c'est comme ça. Il parle et il se trahit.
À l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre Murat est présenté au juge d'instruction. 25 ans après la mort de Christelle Maïri, l'enquête connaît enfin une mise en examen.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
J'ai demandé comme faveur au juge d'instruction de pouvoir prévenir Marie Pichon, la maman de Christelle. J'aurais laissé personne d'autre que moi lui annoncer cette nouvelle. Personne. Je lui ai dit, je sais bien que je ne vous l'ai pas promis, mais je crois bien qu'on touche le bout du tunnel. Enfin, on a quelqu'un de mis en examen dans votre dossier. Peut-être qu'on aura enfin la vérité.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
Raphaël qui me dit, ça y est, il a arrêté M. Murat en l'argent. J'y croyais même pas, c'est pas possible. J'étais toute seule là sur le canapé, quand on regardait la télé. J'étais abattue, voilà. C'est presque comme le premier jour quand Christelle est décédée. Plus rien. Je ne croyais plus. Pratiquement 25 ans d'attente. Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est, d'attente.
Murat a beau nier le crime, le juge veut vérifier sa connaissance des caves de la Charmille. Et surtout, il veut comprendre ce qu'il est venu faire dans cette cave 10 ans après le crime. Pour ça, rien de tel qu'un transport sur les lieux. Alors direction le Creusot.
Et ce 26 octobre 2012, le juge d'instruction ne va pas s'être déçu. Murat nie toujours le meurtre, oui. Mais quand le magistrat lui demande de désigner l'endroit où il est retourné chercher des traces de sang, 10 ans après, bingo.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Jean-Pierre Murat a montré exactement l'endroit où avait été retrouvé le corps de Christelle Maïri. Symboliquement, c'est très fort et c'est quasiment un aveu.
Eh bien, pas du tout, répond l'avocat de Murat. Car depuis sa garde à vue, il a eu le temps de consulter le dossier.
Dans le dossier, on a les photographies de, je les ai d'ailleurs ici, de la jeune fille lorsqu'elle est allongée le long du mur, avec le vélo qui est derrière. Et donc, ensemble, on a regardé le dossier. Bien sûr qu'on l'a regardé. Alors après, bien sûr qu'il va faire le cheminement et il va dire où est le corps. Il l'a vu sur la photo. Il l'a vu.
Mais dans ce cas, pourquoi Murat a-t-il uriné à cet endroit précis 10 ans après le meurtre? Il n'avait pas le dossier, là.
Deux explications. Soit une forme de mépris, j'irais uriner sur vos tombes, ou alors, pour pouvoir justifier la présence de son ADN, du fait qu'il a justement uriné sur la scène de crime.
Pour vérifier cette hypothèse, le policier demande à un collègue d'effectuer des prélèvements ADN à l'endroit même où Murat a uriné. Une stratégie destinée à le faire réagir.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Jean-Pierre Murat a une réaction extrêmement nerveuse. C'était très palpable chez lui au moment où cet écouvillonnage a eu lieu.
Maître Corinne Herman, avocate
de Marie
Pichon.
Comme s'il était scandalisé et comme si en même temps il se disait mais voilà, ils vont trouver mon ADN, quoi.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on l'innocente. C'est tout. Donc c'est pourquoi il est inquiet, parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir?
Depuis l'entrée de la cave, une femme n'a rien perdu de la scène. C'est Marie Pichon.
Là, ce qui me passe par la tête, c'est bon, c'est lui. C'est déjà pour moi, c'était déjà une preuve. C'était lui.
Et la conviction de Marie se confirme à l'extérieur de la cave. Car Murat va commettre une nouvelle bourde en descendant le chemin de la Charmille.
Il s'arrête vraiment à l'endroit où l'arme a été retrouvée, c'est-à-dire à hauteur du buisson où l'arme est retrouvée. Or, on ne lui dit pas de s'arrêter. Pour nous, il n'y a que l'auteur des faits qui peut s'arrêter à l'endroit où il a jeté l'arme.
Gaffe sur gaffe. Et Murat, dont ce n'est décidément pas le jour, va continuer et montrer qu'il sait vraiment beaucoup de choses. Au pied de l'immeuble de Christelle, le juge l'interroge. Il habitait où, le copain que vous veniez voir tous les jours à l'époque du meurtre ?
Et là, encore une fois, Jean-Pierre Murat se prend les pieds dans le tapis. Il dit, mais à tel étage, juste au-dessus de celui de la jeune fille. Chose qu'il n'était pas censé connaître, encore une fois.
L'instruction se termine. Il est temps de renvoyer Murat devant les juges, mais reste à savoir s'il est accessible à une sanction pénale. Parce que Murat, il en a fait des séjours en HP.
Ouais. Alors c'est vrai que la question se pose, mais il n'y a pas vraiment eu de débat parce que Murat a été examiné par un éminent psychiatre qui s'appelle le docteur Zaguri. Et Zaguri n'a pas tenu compte seulement des entretiens qu'il avait eus avec Murat, il a tenu compte de toute sa vie, de tout son passé psychiatrique. Et voilà ce que note l'expert. Les premiers symptômes psychotiques francs de sa maladie sont apparus début 89, soit plus de 2 ans après le meurtre de Christelle Maïri. Alors pour l'expert, les troubles ne semblent pas contemporains ou concomitants aux faits. Et en droit, ce qui compte, c'est l'état de santé mentale au moment des faits, au moment du passage à l'acte. Le docteur Zaguri considère que si le discernement de Murat n'est pas aboli au sens de l'article 122 du Code pénal, il peut toutefois être altéré. Et si son discernement est altéré, l'expert écrit, Murat n'est que relativement accessible à une sanction pénale.
Oui, mais accessible tout de même.
Oui.
Il est donc renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire et son procès s'ouvre le 10 juin 2015.
Un procès aussi longtemps après les faits, c'est rarissime. La presse est donc au rendez-vous.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
C'est un aboutissement. Depuis 28 ans et demi que ma fille est décédée, c'est vrai que c'est un aboutissement pour moi, pour la famille, les amis et pour l'association.
Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle.
Il fallait être présent pour soutenir Marie. Toute cette énergie qu'on avait dû déployer pour en arriver là, donc il fallait vraiment y être, hein, jusqu'au bout.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
L'enjeu, c'est de démontrer qu'un cold case, même quand on n'a pas d'ADN, même quand on n'a pas l'arme du crime, eh bien on peut le résoudre 30 ans après.
Bonjour monsieur.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
L'enjeu, c'est l'acquittement, c'est sûr. Hein, et je dois l'obtenir, cet acquittement.
On se bat. Hein.
Ouais.
On se bat.
Ouais.
Je voulais trop qu'ils disent, ben oui, c'est moi qui l'a fait, et puis qu'ils me disent pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a été arrêté, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça.
Mais les questions de Marie restent sans réponse. Car Murat garde la même ligne. Il n'est pour rien dans le meurtre de sa fille. Alors, les débats s'animent autour des éléments matériels, et notamment le couteau retrouvé dans le buisson.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
On va dire, ça a pu être son couteau. Mais est-ce qu'il a tué avec ? Alors ça, on ne le démontre pas, hein. On ne le sait pas.
Et l'expertise du couteau ? Pour la défense, elle ne démontre rien non plus.
Comment peut-on arriver à des conclusions à partir d'un couteau simplement sur une image, l'image d'un couteau ? L'image d'un couteau, c'est pas le couteau. Parce que l'image d'un couteau, elle peut être modifiée ne serait-ce que par le papier. Donc moi je dis non.
L'avocat marque un point. Mais il n'est pas aidé par le comportement de son client. Murat peut aussi montrer un visage plus inquiétant que celui de l'homme tranquille, qu'il donne à voir depuis le début du procès.
Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon.
Jean-Pierre Murat va à un moment donné péter un câble à l'égard d'une témoin, l'insulter, s'en prendre violemment à elle. Et puis finalement, quand je lui pose la question « Est-ce que c'est vous ?» et que je lui repose avec insistance, il va m'envoyer paître violemment.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
C'était un élément supplémentaire pour indiquer que Jean-Pierre Murat pouvait se montrer très, très violent et avoir un passage à l'acte très facile.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
Je sens bien qu'en regardant les jurés, ça les a marqués.
Un point pour l'accusation. Dans son réquisitoire, l'avocat général rappelle d'ailleurs les violences récurrentes de Murat et le chapelet d'indices à charge contre lui. Son absence d'alibi, ses aveux à Michel, son obsession pour le meurtre, sa technique d'affûtage des couteaux et sa connaissance de la scène de crime. Tout rapproche Murat du meurtre. Rien ne l'en écarte.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Tous ces indices, lorsqu'ils sont mis bout à bout, constituent un véritable portrait du coupable. Et le portrait, c'est celui de Jean-Pierre Murat.
Le magistrat requiert 20 ans de prison. Une peine qui tient compte de l'altération du discernement de Murat au moment des faits. La défense, elle, va tenter d'arracher l'acquittement.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
J'ai dit aux jurés, mais si c'était un de vos enfants, de vos pères, vos frères, qui soit ici, avec simplement les charges qu'on retient contre Jean-Pierre Murat, est-ce que vous ne crieriez pas au scandale s'il était condamné ? Parce que c'était ça le problème. On n'a pas le droit de condamner un homme avec aussi peu d'éléments.
Les jurés de Saône-et-Loire auront un avis différent. Après 3h30 de délibéré, ils condamnent Jean-Pierre Murat à 20 ans de réclusion criminelle. La fin d'un long combat pour Marie Pichon et ses proches.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
On a gagné, tous gagnés ensemble. Je ne suis pas la seule, hein. Il faut bien penser que je ne suis pas toute seule.
Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Et moi, je peux vous dire que de l'intérieur, ça a été de longues années de ténèbres. Et enfin, une sortie du tunnel. Si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Il n'y a que Marie et moi pour comprendre une chose pareille. Et je pense que c'est ce qu'explique l'estime et l'attachement qu'il y a entre les moi, tout simplement.
Raphaël, pour moi, je le porte aux anges. C'est vraiment un mec, je vais dire, un mec super. C'est pas qu'un flic super. Le mec super ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon fils. Et il m'a redonné une joie de vivre, on va dire, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est une joie, mais il m'a permis de revivre d'une autre manière. Alors lui, c'est...
Jean-Pierre Murat a fait appel. Sa condamnation a été confirmée un an plus tard à Dijon et reconfirmée par la Cour de cassation.
Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'Accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublié.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.